Chapitre 45. Baiser cruel, caresse mortelle.
Alix ! Zizo sprintait vers le cachot, une course de guingois sur sa jambe de bois. Il essayait d'éclairer au maximum le bout du couloir, mais son faisceau lumineux tremblait. Il ne distinguait qu'une silhouette floue, une ombre qui s'était levée dans la cellule pour s'accrocher aux grilles. « Alix !»«
Non, Zizo, désolé. »
Il avait aussitôt reconnu la voix.
« Ce n'est que moi, pas ta reine adorée. »
« Grisante !»
Zizo s'immobilisa, accroché à son beau comme un marin à un mât. Sa lampe balaya la pièce devant lui. Elle était bien plus vaste que celle de Liu et des autres prisonniers, plus profonde aussi. Trois lits étaient installés, deux grands, collés au mur le plus éloigné, et un plus petit, recouvert de draps bleus cousus de fil d'or. Des jouets étaient éparpillés sur un épais tapis, des cubes de bois, des toupies, une petite licorne d'argile. Du fond de la cellule, une deuxième silhouette, massive celle-ci, s'avança dans la lumière du laser. Zizo reconnut immédiatement Bill, sa carrure de taureau, son éternel cap de tigre, son pas pesant, lent, comme s'il portait le plus fragile des trésors. Dans ses bras, un petit animal se débattait en riant. Une minuscule fillette, emmitouflée dans une combinaison de laine à rayures roses, un collier de dents de tigre autour du cou. La fameuse Sélénée, pensa Zizo. La légendaire fille d'Eugénor et Mordélia, celle pour qui Eugénor a massacré toute une vallée. Bill ne prononça pas un mot, mais posa l'enfant à terre et lui rendit la poupée qu'il cachait dans son dos.
« Lali !»
gloussa la fillette en la serrant contre son cœur. Chrysante la surveillait avec la vigilance d'une chatte face aux premières cascades de son chaton. Elle tendit la main à travers les barreaux.
« Sors-nous d'ici, Zizo. Vite !»«
Zizo, Zizo !»
répétait Sélénée, follement amusée. L'espion observa Bill avec méfiance. Une vieille rivalité les opposait depuis leur enfance et leurs premières explorations de Paris.
« Dépêche-toi !»
insista Chrysante.
« Et n'aie pas peur de King Bill. Il déteste Eugénor encore plus que toi. »
Zizo n'avait pas d'autre choix. Il trembla un peu en décrochant le trousseau de Galien, puis en essayant d'introduire une clé dans la serrure.
« Alors, tu y arrives ?»«
Non, ce n'est pas la bonne. »«
Essayons une autre. »
Zizo essaya, mais il avait déjà compris que la serrure de la cellule de Bill et Chrysante était trop étroite. Aucune des 10 clés qu'il avait emportées ne correspondait. Galien conservait-il uniquement celle des cellules des prisonniers qu'il torturait? Bill, Chrysante et Sélénée avaient donc été épargnés?
« Qu'est-ce que tu fabriques ?»
pestait Chrysante.
« Libère-nous, et tu cavaleras pour retrouver ta reine après. Je crois qu'elle a préparé une jolie surprise pour son petit Zizo.
« Zizo, Zizo, Zizo !»
continuait de chantonner Sélénée en entraînant Lali dans sa danse.
« Aucune ne rentre. Je suis désolé. »
Il se concentra sur la serrure de métal, autant pour éviter le regard de Chrysante que pour en vérifier la solidité. C'était un mécanisme de cuivre, neuf, impossible à forcer, encore moins sans outils. Les barreaux de la cellule étaient tout aussi solides. Zizo ne disposait d'aucun moyen de les délivrer.
« Je suis désolé, » répéta-t-il.
Chrysante continuait de tendre la main à travers les barreaux. Sélénée dansait. Bill fixait Zizo avec un regard de fauve attendant qu'on ouvre sa cage pour le dévorer. Des bruits de pas résonnèrent soudain quelque part dans les couloirs. Une marche régulière, cadencée. Celle d'un groupe de soldats? Liu, Wayne et les autres prisonniers n'étaient-ils pas parvenus à les stopper? À moins qu'il ne s'agisse d'une autre patrouille. Zizo n'avait toujours pas réagi, mais Chrysante avait compris.
« Ne nous laisse pas, je t'en supplie !»
Les pas approchaient.
« Je vais revenir, Chris. Je te le promets. Dis-moi juste où elle s'éraille. »
Le regard de Chrysante se troubla, entre colère et douleur. Zizo eut l'impression de lui avoir enfoncé un poignard dans le cœur.
Ça t'arrangerait bien, hein? Que je crève et que ta reine survive? Va te faire foutre, Zizomis!
Elle se pencha et, d'un geste assuré, attrapa Sélénée et la hissa dans ses bras. La fillette se laissa faire sans lâcher sa poupée.
Lali veut bisous, maman. »
Chrysanthe embrassa la poupée. Bill restait toujours muet. Les bruits de pas étaient maintenant tout proches, peut-être amplifiés par l'écho du sous-sol. Zizo ne pouvait plus attendre. Les gardes pouvaient le surprendre d'un instant à l'autre.
« S'il te plaît, Chrysanthe, où est le sérail? Je vais revenir, je te promets !»
Chrysanthe lui sourit méchamment.
« Tout ce que tu veux, Chris » jura-t-il. « Vite !»
Des ombres dansaient sur les murs, à l'extrémité du couloir. Zizo reconnut la lueur des torches enflammées. Encore un virage, et les soldats le trouveraient. Chrysanthe était parvenue à attraper la manche de son sweat gris à travers les barreaux.
« Un baiser, connard. Juste un baiser, ça suffira. Un vrai. Quand tout sera terminé. »
Zizo ne sut que répondre. Il avait commencé à décrocher l'arbalète cobra glissée dans sa ceinture.
« Tout droit et à droite, »
continua Chrysanthe.
« Tu montes l'escalier et ensuite à gauche, au deuxième palier. Tu ne peux pas te tromper, c'est la seule porte voûtée. »
« Merci !»
Traînant sa jambe morte, Zizo était déjà parti. Il bifurqua à droite quelques secondes avant que les soldats surgissent. Il était déjà trop loin pour que les gardes entendent le bruit de son beau accompagner ses pas, trop loin pour entendre Chrysanthe se pencher vers Séléné et lui murmurer.
« Écoute-moi bien, et tu le répéteras à Lali aussi. Ne crois jamais aux promesses des hommes. Jamais. »
Le combat faisait rage sur les pentes du Mont Chauve. Regroupés autour de Rick, les rebelles arc-en-ciel défendaient chaque mètre de terrain. Ils avaient retourné les plaques de tôle ondulées pour s'en servir de boucliers, improvisant un mur de fer qui les protégeait des jets de flèches, de haches et de pierres taillées. Ils ne cessaient pourtant de reculer sous la pression ennemie et de monter toujours plus haut sur la butte. Les cavaliers de Jeanne d'Arc eux-mêmes avaient été contraints de mettre pied à terre. Leurs casques rouges et leurs baux d'acier scintillaient dans le soleil. Inlassablement, ils colmataient les brèches dans la défense des rebelles, relevaient les blessés, protégeaient les combattants touchés, repoussaient des dizaines d'assaillants. Dès qu'un soldat impérial tombait, deux ou trois autres le remplaçaient. La lutte était inégale, le piège se refermait. On retiendrait de la bataille du Mont Chauve la résistance héroïque des compagnons avant leur totale extermination. Vers le sommet, Agnel, Mano et une vingtaine de rebelles avaient rejoint Akan et Sabi. Ils ne pouvaient plus attendre. Ils devaient prendre de force le temple de la Sibylle.
« De toutes les façons, » résuma Sabi, « on a le choix entre finir bouffé par les fauves des ombrageurs ou massacré par les soldats du Grand Cerf. Autant que notre escalade sur le Mont Chauve ait au moins servi à détruire ce foutu moulin sublime !»
Akan hésitait. Les premiers compagnons qui approcheraient du temple seraient déchiquetés. Combien devraient se sacrifier avant que les épées et les flèches des autres parviennent à neutraliser les caracals? Personne, parmi les 24 partisans cachés devant le temple, ne paraissait pressé de s'élancer vers une mort certaine. Sabi se leva d'un coup.
« Avec moi !» cria la Lolly Girl. « Si nous y allons ensemble, ils ne pourront pas manger en même temps tous les steaks qui cavalent sous leur nez !»«
Non !» hurla Akan. Trop tard. Sabi s'élançait déjà sur l'étroit sentier de ciment menant au monument. Akan courut derrière elle, beau en avant. Agnel et Mano jaillirent à leur tour, suivis des autres gitans, d'une dizaine de compagnons et de quelques prémas. Ils avaient presque atteint la porte du temple quand les caracals bondirent. Un saut phénoménal de plus de 3 mètres. Les 7 fauves se positionnèrent en cercle autour des rebelles.
« Je prends celui de droite !» fit Akan. « Reste derrière moi, Sabi !»
Le géant avait désigné le plus grand des félins, babine retroussée et muscles bandés. Sabi s'avança pourtant, pointant son dérisoire couteau de cuisine.
« Et moi, celui d'à côté !»
Elle fixait un caracal pas moins dangereux, yeux translucides aux aguets et oreilles du diable pointés. Agnel, équipé d'un simple filet, et Mano, poing serré sur son poignard de pirate, s'étaient positionnés dos à dos face à 2 autres. Tous étaient conscients que les fauves, habitués à chasser en meute, étaient plus rapides qu'eux. Des prédateurs qu'une lame ou une flèche n'arrêteraient pas.
« Seuls à jamais !»
cria Akan en levant son bow.
« Plus jamais seul !»
répondirent 22 voix. Un seul compagnon n'avait pas parlé. Jusqu'à présent, il était resté en retrait. Petit, Fin, il portait une large cape sombre à capuche de colporteur qui couvrait son corps et son visage. Il fut pourtant le premier à s'avancer, dépassant Akan et Sabi, pour aller s'offrir en sacrifice aux fauves affamés. Il ne portait aucune arme, ne fit aucun geste pour se défendre, mais n'hésita pas à s'approcher davantage, jusqu'à se tenir à 50 centimètres du premier caracal. Le colporteur leva la main. Le caracal gronda, ouvrant la gueule et dévoilant une rangée de 30 crocs acérés. Akan faillit se précipiter, Sabi le retint. « Attends !» Le colporteur fit un nouveau pas en avant, tendant toujours son bras. Le félin n'avait plus qu'à refermer la mâchoire pour lui arracher le poignet. Il n'en fit rien. Les 23 rebelles arc-en-ciel, stupéfaits, virent le caracal se frotter contre les jambes de l'imprudent, tel un chaton réclamant des câlins, puis entendirent le monstre ronronner de plaisir dès que l'inconnu caressa sa fourrure sable entre les deux oreilles.
« Attaquez !»
ordonna une voix. Chado, en compagnie d'Orfeo et des 6 autres ombrageurs, étaient sortis de leur refuge.
« Attaquez, mes bébés !»
répéta Chado.
« Tuez ! Tuez !»
Les fauves ne bougèrent pas. Pour la première fois depuis qu'ils étaient nés, ils désobéissaient à leur maître.
« Tue, Azazel !»
insista Chado.
« Tue, Iblis ! Attaque Asmodée !»
Les félins ne paraissaient même plus reconnaître leur nom. Lentement, le colporteur fit glisser la capuche sombre qui recouvrait son visage. Ses longs cheveux noirs tombèrent sur son cou. Ses yeux de louve apparurent en pleine lumière.
« Louponera !»
murmura Agnel. L'ado louve, sans cesser de caresser Azazel, fixa avec mépris les 8 ombrageurs, puis se retourna vers les fauves en désignant leur maître.
« Azazel ? Iblis ? Asmodée ?
Attaquez tous ! Tuez !»
Les 7 félins d'un seul nouveau bond se retrouvèrent aux portes du temple. Tous les ombrageurs, à l'exception de Chado et Orfeo, s'étaient réfugiés à l'intérieur. Sabi ferma les yeux.
« Non, Azazel !»
hurla Chado avant que le fauve plante ses dents dans sa gorge.
« Mes gros chats, mes bébés !»
cria Orfeo avant que les griffes d'Iblis et Asmodée poignardent son dos. La seconde suivante, les fauves tiraient les 2 corps dans le temple. Les 4 autres caracals s'y trouvaient déjà. Les hurlements des derniers ombrageurs furent aussi terrifiants que brefs. Les caracals n'étaient pas des chats. Ils ne s'amusaient pas avec leur proie. Ils tuaient sans faire souffrir, pour se nourrir, ou parce qu'on le leur ordonnait. Louponera s'approcha d'Akan et de Sabi. Elle se tourna vers le temple de la Sibylle et récita « Nordais, un moulin pour que survive le meilleur du futur. » Chacun doit faire sa part. Je ferai la mienne, uniquement la mienne. Ce moulin-là, seulement celui-là, est pour moi. » Akan avait compris. Il sortit le sublimateur de sa poche et le confia à l'ado louve. « Je te le rends très vite, » fit Lupa. « Ne t'inquiète pas. » Sans prononcer un mot de plus, sans se retourner, elle marcha vers le temple, y entra, laissant juste derrière elle une pâle lueur jaune. Akan, Sabi, Agnel et Mano dévalaient les pentes du mont Chauve.
« Une bonne chose de régler !» soufflait Sabi. « Les ombrageurs, digérés et un nouveau moulin sublime de dégommer. »
« Je crains que ce soit le dernier, » tempéra Akan. Tout danger venant du temple était écarté. Mais au pied de la butte, les troupes de Rick et la cavalerie de Jean d'Arc avaient encore reculé. La plupart des plaques de tôle avaient été arrachées, les soldats impériaux les piétinaient, et les rebelles, cernés de tous les côtés, n'avaient plus que de dérisoires boucliers de bois et d'écorce contre les flèches, les lames et les pierres qui pleuvaient.
« Je crois que c'est l'heure de la charge héroïque, »
annonça Agnel.
« Ah, 1 contre 20 !»
estima Mano. Sabi, tout en courant, jeta un regard vers le sommet du mont.
« Tu préfères accompagner Lupa dans le temple et enjamber les ombrageurs, transformés en pâté pour chat ?»
Aucun des partisans ne répondit. Aucun des partisans ne ralentit.
« Rick a besoin de nous !»
se contenta de confirmer Akan. Ils étaient 24, forts, rapides et puissants. Akan valait bien 10 soldats, et Sabi avait autant d'énergie que 10 autres. Agnel était plus insaisissable qu'un oiseau. Mano n'avait pas son pareil pour lancer un couteau, tout comme Satcho et les autres gitans. Mais que pourrait la réunion de tous leurs talents, même unis à ceux de Rick et Jean d'Arc, contre 5000 combattants? Rien, pensèrent-ils. Rien, sinon périr avec dignité. Pour la liberté.